un moment spécial donc pour penser à nos frères et sœurs qui sont persécutés. Une fois, quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, « C'est tellement loin de chez nous !» Et il ne se sentait pas vraiment concerné. Alors que nous sommes concernés. Nous sommes concernés parce que ce sont nos frères et sœurs. Et la persécution, ce n'est pas seulement au bout du monde, ce n'est pas seulement loin. Il y en a aussi qui sont persécutés aussi en Europe aussi. Alors, Porte Ouverte a chiffré à plus de 365 millions de chrétiens qui subissent la persécution dans le monde. Ça fait un chrétien sur sept. Donc imaginez, dans l'Église, une place sur sept, on pourrait y mettre un chrétien persécuté. Alors je ne sais pas si vous-même, vous avez connu ou vous connaissez peut-être aussi ces moments de persécution. Alors vous avez remarqué, il y a un texte, le texte qui revient, hein, c'est Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Et je vais prendre ce texte à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Donc je vous invite à prendre dans vos Bibles Romains, chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 39. Et je vais prier. Seigneur, je te recommande, Seigneur, nos cœurs, que tu nous sensibilises à la situation de nos frères et sœurs dans le monde. Et Seigneur, merci, car tu bâtis ton Église et tu le feras jusqu'au bout, Seigneur. Merci de nous parler, Seigneur, sur ce que nous pouvons faire. Et Seigneur, merci, parce que tu entends nos prières et tu attends aussi. Tu attends nos prières aussi. Merci, en Jésus-Christ. Amen. Donc Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les cieux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Donc, jusqu'ici, parole de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Vous l'avez compris, c'est le thème du dimanche de l'Église persécutée. Des dimanches, puisque chaque église choisit quel dimanche elle veut le faire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. La preuve en est, c'est que ceux qui sont persécutés, qui subissent des fortes persécutions, eh bien, ils persévèrent, ils sont encore dans l'amour de Dieu, parce que c'est l'amour de Dieu. Oui, bien sûr, ils ont leur amour pour Dieu, mais c'est l'amour de Dieu qui les maintient fidèles. C'est l'amour de Dieu qui les maintient fidèles. C'est donc la démonstration. Leur résilience, leur persévérance, leur ténacité sont la démonstration de l'amour de Dieu, que rien ne les séparera et ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que je vous propose de voir en trois points. Premièrement, nous verrons que le chrétien passe par des souffrances. C'est normal, ça fait partie de la réalité de la vie du chrétien, de passer par des souffrances, par des moments de souffrance. Même s'il n'y a pas que ça, il y a aussi des moments de joie, il y a aussi des moments de souffrance qu'on doit voir dans la réalité. Ce sera mon premier point. Le deuxième point, pourquoi rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ ? Rien ne nous séparera de son amour. Et troisième point, rien ne les séparera de notre amour. Rien ne les séparera, nos frères et sœurs persécutés, de notre amour. Tout cela est lié. Donc premièrement, voyons la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. Les souffrances, la souffrance, ça fait partie intégrante de notre vie. Si vous passez par des souffrances, c'est normal, n'en soyez pas étonné. Il faudrait plutôt être étonné si tout roule. On se sent bien dans ce monde et là, ça sera un sujet d'étonnement. Mais non, la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Nous n'avons pas que des moments de souffrance. Et dans la Bible, déjà, depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, donc de Genèse jusqu'à Apocalypse, eh bien, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, et les premiers, bien sûr Jésus, et les premiers chrétiens, eh bien, la souffrance a toujours accompagné la vie des croyants de toute époque, les croyants qui veulent plaire à Dieu. Tout chrétien passe par des épreuves plus ou moins dures. Ça peut aller de la simple moquerie jusqu'à la plus dure persécution qui peut mener jusqu'à la mort. Et n'en soyons pas étonnés. Jésus explique la persécution par ses paroles dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 19 et 20. Voilà l'explication de la souffrance. Voilà ce qu'il dit. « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jean 15, 19 à 20. L'opposition donc que rencontrent les chrétiens persécutés, que nous pouvons aussi rencontrer à plus ou moins grande échelle, c'est pas dû au hasard des difficultés, des circonstances de la vie, le réchauffement climatique. Non, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie parce que, eh bien, le monde nourrit une haine, le texte le dit, hein, pour Dieu, pour son Fils, et par voie de conséquence, pour les chrétiens. N'en soyons pas étonnés. Et pourtant, eh bien, Dieu veut changer le cœur des plus durs. Ne soyons pas étonnés si nous sommes traités de la même manière que le Seigneur Jésus. Et surtout, ne nous trompons pas de combat. C'est pas contre les personnes que nous devons... Ce sont pas les personnes nos ennemis. Les ennemis, ils sont dans les lieux célestes. Notre combat, il est avant tout spirituel. C'est ce que nous rappelle Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà où se situe notre véritable combat. Il est important de se le rappeler pour prier dans ce sens, et ne pas nous tromper d'ennemis. Alors cette souffrance, elle peut aller jusqu'à la mort. Oui, elle peut aller jusqu'à la mort, et déjà la Bible en parle. Les premiers chrétiens, dès le premier siècle, les premiers chrétiens ont été exposés à une féroce persécution. Ils étaient livrés aux lions, ils ont été livrés en spectacle. Beaucoup sont morts en martyrs, des hommes aussi bien que des femmes. Et la Bible nous en présente plusieurs. Il y a notamment l'apôtre Jacques, les trois plus proches du Seigneur, c'était Pierre, Jacques et Jean. Jacques, c'était un des trois qui est mort en martyr dans les premières années de l'Église. Et c'est le livre des Actes, chapitre 12, versets 1 et 2, qui nous le dit. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Le Seigneur ne l'a pas empêché, il est mort en martyr. Alors l'opposition à Dieu et à ses enfants, elle est omniprésente dans la Bible, et pas seulement dans la Bible, elle est omniprésente dans l'Église, dans l'histoire passée de l'Église, l'histoire présente de l'Église, et le futur de l'Église. N'en soyons pas surpris, mais le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut pour y faire face. Je vais y venir. Cette souffrance, le pasteur Barnabas en a témoigné, elle peut conduire au doute. Certains, et notamment des jeunes, abandonnent la foi à cause de ce qu'ils ont vu, à cause de ces souffrances qu'ils ont vues. Il y a des témoignages, oui, en Afrique subsaharienne, mais pas seulement. Notamment dans ce camp de réfugiés que vous avez vu qui est au Nigeria, où il y a des jeunes filles qui se prostituent, des jeunes qui se droguent, parce qu'ils ont vu beaucoup de souffrances. Ce sont des réalités aussi. Il y en a qui, cette souffrance peut conduire au doute, même parmi les enfants de Dieu, les jeunes. En France, en Belgique, en Europe, il y a aussi de la persécution. Alors à un niveau bien moindre que ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Mais il y en a aussi. Celui qui va travailler le matin et qui est l'objet des moqueries, c'est une forme de persécution quand on sait qu'on est chrétien. En tout cas, eh bien, même si certains ont leur foi qui ont fortement baissé, ça n'enlève en rien cette vérité, cette promesse qui est dans Romains. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pas parce que certains ont perdu la foi que Dieu ne les aime pas. Et croyons qu'ils peuvent revenir. Avec aussi nos prières, l'aide de nos prières. La Bible affirme et promet que l'amour de Dieu, il repose sur tous ses enfants, sur nous, sur eux. Même dans la pire souffrance ou la pire persécution. Pourquoi? Pourquoi nous pouvons être sûrs? Déjà parce que Dieu le dit. Dans sa parole. Et dans le passage que je viens de lire, pourquoi pouvons-nous être sûrs que l'amour de Dieu repose sur nous, ses enfants? Parce que Dieu est pour nous. Dieu est pour nous, il est pour toi, il est pour moi. Verset 31 de Romains 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Bonne raison de croire que l'amour de Dieu ne diminue pas. Dieu est pour nous. Et je relis ce verset, ce passage si fort dans Romains 8, les versets 35 et 38 à 39. Je les relis dans Romains 8. « Qui nous séparera ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? » Et je saute un passage. J'ai l'assurance que ni la vie ni la mort, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ça peut sembler paradoxal. Où est-ce qu'on peut voir l'amour de Dieu dans ceux qui souffrent? Ils peuvent se demander où est ton amour, Seigneur? Et pourtant ils sont bien placés pour nous témoigner que cet amour, il est toujours là. Il est toujours là. Voyons pourquoi et comment. Premièrement, eh bien, Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole. Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Nous pouvons aussi traverser des épreuves, que ce soit nos frères et sœurs persécutés en Afrique ou ailleurs, que ce soit nous pouvons affirmer, tu peux affirmer, je suis plus que vainqueur. Quelles que soient les circonstances que tu vis, tu peux l'affirmer, quelles que soient nos circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas promis une vie tranquille. Et cette mission porte ouverte qui œuvre parmi les chrétiens persécutés, qui informe beaucoup et qui informe aussi les autorités, elle œuvre pas pour la sécurité, seulement pour la sécurité des croyants. Non. Et frère André, celui qui a fondé Porte Ouverte, a dit ceci. La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. La sécurité, c'est pas le but de la mission. Donc il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Et l'apôtre Paul ne considère pas la venue des épreuves comme un échec. On pourrait dire comme une punition même. Ça peut. Mais là, dans ce passage-là, les épreuves ne sont pas un échec. Ne sont pas un échec. C'est pas une défaite pour le croyant. Au contraire, voyons-le comme une victoire. Paul affirme, dans verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Grâce à Jésus. Jésus a été vainqueur. Il est mort, il est ressuscité. Il est mort pour nous et il est ressuscité. Alors, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Une manifestation de son amour, c'est de nous accorder la victoire dans l'épreuve. De la victoire dans l'épreuve. Mais on peut se poser la question, c'est quoi cette victoire? On ne la voit pas forcément. Que signifie avoir la victoire? L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, liste beaucoup de personnes dans l'histoire biblique qui ont eu des épreuves et dont le sort a été radicalement différent. Je vais lire dans Romains 11, les versets 32 à 38. Ils ont tous été vainqueurs et ils n'ont pas eu la même fin. Romains 11, Hébreux, pardon, merci. 11, chapitre chapitre 11, versets 32 à 38. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Certains donc ont connu des victoires fulgurantes sur l'ennemi. Ils ont fermé la gueule des lions, Samson va fermer la gueule d'un lion. Ils vainquirent des royaumes. D'autres furent lapidés, tués, sciés. Le sort n'est pas le même d'un chrétien à l'autre. Et ça, ce n'est pas nous qui décidons, frères et sœurs. C'est Dieu. C'est Dieu qui soit béni. Certains meurent tranquillement dans leur lit. Pour autant que je sache, Billy Graham, un grand évangéliste qui a fait beaucoup, il est mort en paix, je crois, à un âge bien, bien avancé. D'autres sont morts en martyrs. Alors on voit bien que cette liste montre clairement deux manières d'être victorieux. On a deux manières d'être victorieux. Premièrement, eh bien, oui, il y en a qui ont échappé à la persécution. D'autres ont vu la persécution être éliminée. Certains ont échappé à la persécution, oui, aussi en mourant par la mort. La mort est aussi une fin à la souffrance, à la persécution. Et certains sont restés dans la persécution et ils sont restés plus que fidèles, comment ? Ils sont restés plus que vainqueurs, comment ? En restant fidèles. Ça, c'est leur victoire. Ils sont restés fidèles dans la persécution. Être plus que vainqueur, ça signifie d'abord rester fidèle dans les souffrances. Si tu souffres, ton épreuve, c'est de rester fidèle. L'histoire de Job dans la Bible nous le rappelle. Et rester fidèle, c'est ce que nous a rapporté Porte Ouverte, qui côtoie ces chrétiens, ces frères et sœurs. Rester fidèle, c'est leur premier sujet de prière. C'est la première chose pour laquelle ils nous demandent de prier, qu'ils restent fidèles. Ils ne nous demandent pas de prier que l'épreuve s'en aille. Ils nous demandent de prier qu'ils restent fidèles jusqu'au bout. Et ô combien on peut s'inspirer de leur prière, nous, dans notre monde. Un chrétien persécuté du Burkina Faso qui s'appelle Soré, voici ce qu'il a dit. Burkina, où il y a aussi de la persécution. Voici ce qu'il a dit. Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour. Mais les gens continuent d'aller à l'église. La preuve que Dieu est là, au milieu d'eux. C'est Ilia Djadi qui a dit ceci. C'est un expert analyste de l'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi nous sommes plus que vainqueurs ? Parce que Jésus, il l'a été. Jésus, il a été plus que vainqueur dans la pire des souffrances, dans la pire des humiliations, par sa mort sur la croix. Il s'est rendu vainqueur parce qu'il est ressuscité. Pour nous, pour que nous soyons plus que vainqueurs. Son triomphe n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, en tout cas lorsqu'il est mort sur la croix. La démonstration de puissance, c'est lorsque Dieu l'a ressuscité. Et bien sûr, Christ a souffert. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est présent à côté de ceux qui souffrent, de celui ou celle qui souffre pour lui. Jésus, il est là. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3, on a une extraordinaire histoire de persécution. Le roi Nebuchadnezzar exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue en or qu'il avait faite faire. Trois hommes juifs refusent de lui obéir, de se prosterner. Le roi, fou de rage, les fait jeter dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il constate ? Ils ne sont plus trois, ils sont quatre. Il y a un quatrième homme qui marche avec eux dans la fournaise ardente. Et ils sont ressortis indemnes, ils n'ont pas été brûlés. Un homme qui, selon les propres termes du roi, je cite, ressemble à un fils des dieux. Et puis 600 ans plus tard, à peu près, eh bien le diacre Étienne, il a été lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Il a été lapidé. Et voici les paroles qu'il lance avant de mourir. Acte 7, verset 56. « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Certains sont sortis indemnes du feu, d'autres ont été lapidés. Alors voilà deux exemples de persécution extrême dont les issues sont radicalement opposées. Le premier, les trois premiers hommes sont sortis et Étienne, lui, il est mort en martyr. Mais il y a un point commun à ces deux récits. Ce point commun, c'est que Jésus était avec eux. Il était avec eux dans leur souffrance, aussi bien ceux qui s'en sont sortis que ceux qui ont été lapidés, qui sont morts. Dieu était présent et il est présent aux côtés de ses enfants persécutés. Au moment le plus dur, on peut l'affirmer. Pourquoi est-ce qu'on peut l'affirmer ? Parce que Dieu a donné son Fils. Il a donné son Fils indépendamment de notre vouloir, de notre œuvre, de nos œuvres. Il a donné son Fils parce qu'il nous aime. Et verset 32 du chapitre de Romains que j'ai lu tout à l'heure, je vous le relis. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? Dieu a commencé par nous donner son Fils. Comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui ? Dans la persécution, dans les épreuves, il l'a promis. Pas par nos mérites, mais par grâce, par grâce. Donc Jésus est présent à côté de celui ou celle qui souffre. Et pourquoi aussi est-il présent ? Parce qu'il comprend celui qui souffre. Et pourquoi il comprend celui qui souffre ? Parce que lui-même a souffert. Jésus a souffert pour toi, pour moi. Il comprend et il est avec tous ceux qui souffrent. On peut l'affirmer parce qu'il est vivant. Il est vivant. Et ce verset dans Hébreux chapitre 2, verset 18, qui parle de Jésus. Hébreux 2, 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, donc Jésus. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Ceux qui sont tentés de jeter l'éponge parce que c'est trop dur, parce que ça fait mal. Il peut. Jésus est vivant, il peut. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a souffert. Il a été tenté lui-même sans jamais pécher. Il a été tenté dans ce qu'il a souffert. Alors il comprend tous ceux qui souffrent, n'en doutons pas. De nos jours encore, eh bien, il y a des chrétiens, de nombreux chrétiens persécutés qui témoignent de cette proximité, d'une proximité spéciale qu'ils ont vécue avec leur Seigneur dans les moments les plus difficiles de leur vie. Le pasteur Wang Mingdao, il est sorti de 20 années passées dans les prisons chinoises à cause de sa foi. Et voici ce qu'il dit. J'ai vécu une lune de miel avec Jésus. Alors, il pouvait le dire. Hein. Il a eu une intimité spéciale, vraiment, oui, forcée, mais en même temps, il a vécu, il a recherché la face du Seigneur dans ces moments où il était emprisonné. Et nous qui avons la liberté de vivre notre foi, est-ce que nous prenons ce temps intime avec le Seigneur ? Est-ce que nous savons fermer la porte derrière nous, nous enfermer dans notre chambre et prier avec lui ? Voici ce qu'a dit Jésus, Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors qu'est-ce qui va nous rendre ? On peut se poser la question. Pourquoi est-ce que c'est parfois difficile de... La première raison pour laquelle on ne fait pas ça, peut-être vous le faites, peut-être vous avez du mal à le faire parce que vous manquez de temps. Peut-être vous avez du mal à dégager du temps pour prier. Mais qu'est-ce que ce passage nous dit ? Si on se réserve du temps prioritairement pour prier, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te rendra le temps que tu lui consacres. N'aie pas peur de passer du temps avec lui. Ce n'est jamais du temps perdu. Le temps que tu penses économiser ou avoir peur de perdre, ne crains pas. Si tu passes du temps avec Dieu dans la prière, il te rendra ce temps. Et tu l'auras dans une autre dimension, beaucoup plus glorieuse. Donc rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, parce que Dieu accorde la victoire dans l'épreuve, parce que Jésus est présent à côté de celui qui souffre, et puis aussi parce que, eh bien, souffrir pour Christ, il y a de la joie. Tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on peut être joyeux quand on souffre ? Eh bien, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils ont souffert pour le Seigneur. Acte 5, verset 41, les apôtres. Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ils savaient qu'ils ont souffert pour la bonne cause. Ils ont servi Jésus, ils ont souffert. Mais ils avaient avec eux une joie, et pas n'importe laquelle. Pierre explique aussi dans sa première épître, en 1 Pierre 4, verset 14, « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Alors, humainement parlant, c'est pas rationnel, c'est difficilement explicable. Comment est-ce que quelqu'un qui souffre peut-il être joyeux ? Puisque, oui, c'est pas humain, c'est pas rationnel, cette joie, elle nous est donnée, elle est donnée d'en haut. Elle est donnée d'en haut quand nous prenons position pour Dieu, quand nous choisissons de le suivre, quand nous prenons position par motif de conscience pour lui rester fidèle. Eh bien, c'est une joie qui vient de Dieu, une joie qui est divine, qui ne vient pas de nous. Ce n'est pas une joie factice qu'on se fabrique. Cette joie, elle nous est donnée parce qu'on veut plaire au Seigneur, lui être agréable et le servir. C'est une joie dont la douceur et la beauté dépassent les souffrances endurées. Et c'est une preuve, cette joie. C'est une preuve de l'amour et de la présence de Dieu envers tous ceux qui souffrent. Une bonne raison donc de rester déterminé à lui être fidèle en toutes circonstances. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Eh bien, une autre raison, bien sûr, c'est lui qui nous aime. C'est de prendre de la hauteur par rapport à nos épreuves, quel que soit leur degré. Et de nous rappeler que Dieu nous a donné quoi ? Il nous a donné la vie éternelle. Et parfois, il est bon de prendre de la hauteur pour voir la perspective que Dieu nous réserve. C'est la promesse de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie à venir. C'est déjà la vie ici, avec le Seigneur qui nous a promis d'être avec nous. L'amour de Dieu se manifeste par la promesse, aussi par la promesse de la vie éternelle pour chaque croyant. Et c'est une certitude qui est fondée sur les promesses de la parole de Dieu. Elle nous est garantie en Jésus-Christ que rien ni personne ne pourra nous arracher. Comme le passage de Romains 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alors la persécution, ça peut amener le chrétien à prendre de la hauteur et à considérer ses perspectives d'avenir. Quelles sont ses perspectives d'avenir ? La gloire en Jésus-Christ. Et cette gloire nous est promise à tous les enfants de Dieu, d'être avec le Seigneur. D'où l'importance de voir au-delà de l'épreuve. Il y a des chrétiens qui sont morts en martyrs, ils ont considéré ce qui les attend après la mort, ce qui les a aussi aidés à traverser cette épreuve. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, ce n'était pas Soré qui avait... alors, c'était plutôt Ila Djadi, qui a dit que dans certaines régions du Nigeria, on va à l'église sans avoir la garantie qu'on revient. C'est Ila Djadi, c'est pas Soré. Soré, voici ce qu'il a dit. Soré, c'est lui qui est du Burkina Faso. Et voici ce qu'il a dit. Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternel, mais Jésus est éternel. Prendre donc de la hauteur en se disant que les souffrances ne dureront pas toujours, la vie éternelle, elle durera toujours. Et on a déjà un avant-goût ici-bas de vivre avec Jésus. Paul, il était prêt. Il était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment. Et il nous explique pourquoi dans Romains 14, verset 8. Romains 14, verset 8. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur, c'était sa raison de vivre et de mourir aussi. Et c'était de regarder au Seigneur qui l'aidait, qui l'a aidé à vivre sa vie et à considérer le prix de la récompense. Alors oui, la persécution et l'épreuve nous amènent, comme Sauré et Paul, à prendre de la hauteur et à considérer notre existence au-delà de la mort, dans l'éternité. C'est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne déjà ici sur terre. La vie éternelle, nous l'avons déjà ici quand nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur et Seigneur. Et elle est aussi à venir, au-delà de la mort. Peut-être vous êtes dans l'épreuve, une épreuve que vous seul pouvez évaluer, dans un degré qui est ce qu'elle est. Peut-être que Dieu permet cette épreuve ou cette difficulté dans votre vie pour vous amener à détacher vos regards des choses qui ne vont pas durer sur cette terre, des choses de ce monde à laquelle peut-être parfois on peut s'attacher facilement. Peut-être Dieu permet-il cette épreuve pour nous détacher de ces choses qui n'ont aucune valeur et pour nous attacher à lui et considérer ce qui est le plus important pour lui. Les épreuves sont un moyen aussi qui peuvent nous faire réfléchir. Donc rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ne les séparera de l'amour de Dieu. Et mon troisième point, qui est inséparable du deuxième, eh bien c'est que nous, rien ne les séparera de notre amour. Rien ne séparera nos frères et sœurs persécutés de notre amour. Nous ici à Figeac. Alors, on s'est réjouis hein, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Pour ces enfants qui souffrent, parce que Dieu est fidèle, il veille sur eux. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard. Oui, c'est loin, ça peut nous sembler loin. Et pourtant, Dieu nous appelle, et je crois qu'il prend plaisir à ce que nous nous penchions sur leur situation, ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons une responsabilité à leur égard, et ils attendent nos prières. L'amour de Dieu pour eux passe par notre témoignage concret, nos témoignages d'amour. En Église, nous sommes le corps de Christ. Nous faisons partie du même corps que eux. Et l'amour fraternel, eh bien, c'est un moyen dont Dieu veut se servir pour manifester son amour à lui. Nous sommes des canaux de l'amour de Dieu. Et nous pouvons manifester cet amour de façon concrète. Je vais y revenir. Lorsque Jésus évoque le jugement dernier, il dit qu'il y aura deux catégories. Ceux qui seront à sa gauche, qui n'auront pas cru en lui, et ceux qui seront à sa droite, qui auront cru en lui. Et voilà ce qu'il dit à ceux qui sont à sa droite. C'est en Matthieu 25, 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Matthieu 25, 34, 36. Jésus parle de lui. Jésus s'identifie à tous ceux qui souffrent, tous ces enfants qui souffrent. Tout le bien que nous avons pu faire ou que nous ferons à nos frères et sœurs persécutés, c'est à Jésus même que nous le faisons. C'est à Jésus même que nous le faisons. Pas moins. Alors oui, il y a des actions très concrètes que nous pouvons entreprendre pour manifester concrètement notre amour pour l'amour de Dieu que Dieu déverse en nous pour ces chrétiens les plus vulnérables. Ils ont des besoins vitaux. Le bien que nous le faisons à Christ. Verset 40 de Matthieu 25, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cette chose à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Quel honneur et quelle responsabilité aussi. L'évangile, c'est pas juste une, c'est pas une philosophie. Non, l'évangile, c'est du concret. L'évangile, c'est une personne. C'est Dieu, Jésus. En lui, Dieu incarné. L'évangile devient tangible lorsqu'on le manifeste en acte, lorsqu'on manifeste notre amour par des actions. Lorsque notre foi devient acte, notre foi, elle prend naissance. Elle se manifeste concrètement par nos actes, sous une forme visible. Et elle touche le corps même de nos frères et sœurs persécutés. On peut répondre à leur faim, à leur soif, à leur dénuement, eh bien, en donnant de nos biens, de nos ressources, en leur envoyant des vêtements, en donnant pour des vêtements, pour des, bien sûr pour manger, pour boire, en aidant à creuser des puits. Pour ceux qui peuvent aller dans ces pays, et il y a des possibilités, Porte Ouverte organise des voyages annuellement vers ces pays, avec toute une formation et tout un protocole pour être prudent. Eh bien, pour ceux qui peuvent leur rendre visite, c'est possible de les visiter pour ceux qui sont en prison, ou de les visiter dans des églises de maison. C'est pas seulement la mission de Porte Ouverte. On peut tous s'impliquer. Alors, conclusion, eh bien, soyons l'expression de l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs persécutés. L'amour de Dieu ne nous abandonne jamais, nous-mêmes. De même qu'il ne les abandonnera jamais. Rien ne nous séparera, rien ne les séparera de son amour. Et rien ne les séparera de notre amour que nous pouvons manifester. Donc allons trouver en Jésus le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueur, en étant assurés qu'il est avec nous, dans les bons et dans les mauvais moments, en nous appuyant sur ses promesses dans la parole, qui sont vraies, avec toute l'espérance que ces promesses nous donnent. Et aussi, eh bien, le Seigneur nous responsabilise sur ce qui advient à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous, de nos prières, de notre affection et des marques concrètes d'amour et d'aide dans les difficultés. Par exemple, j'en cite que quelques-uns, hein, bien sûr vous pouvez donner. Vous pouvez aussi signer des pétitions pour faire entendre votre voix, pour la défense des chrétiens persécutés. Vous pouvez défendre de manière légale leur situation. Vous pouvez lancer un plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Vous pouvez envoyer des aides d'urgence alimentaire et médicale. Vous pouvez contribuer à construire des centres, Porte Ouverte construit des centres de soins post-traumatiques pour ceux qui ont été persécutés dans certains pays. Vous pouvez y contribuer aussi. Bien sûr, ces chrétiens, ils ont besoin de cette nourriture vitale, de la Bible. Vous pouvez aussi contribuer en donnant des Bibles, en donnant pour l'achat de Bibles, de littérature chrétienne, pour fortifier les pasteurs. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et rien ne les séparera de notre amour manifesté en Jésus, que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, qui nous a donné en Jésus-Christ. Pour terminer, il ne s'agit pas avant tout de notre amour pour Christ, qui parfois est bien imparfait, mais il s'agit de l'amour de Christ. L'amour de Christ, qu'est-ce qui fait cet amour? Il nous presse. Je termine avec ce verset, 2 Corinthiens 5, verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse. » Amen, je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous impliques dans ton œuvre, Seigneur, et chacun à notre niveau. Seigneur, nous pouvons être être utilisés dans tes mains pour soulager ceux qui souffrent, Seigneur. On veut considérer qu'il n'y a pas de hasard avec toi, Seigneur. Si tu nous mets en contact avec telle ou telle personne, ou si tu nous informes de telle ou telle situation, Seigneur, dis-nous qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau, Seigneur. Bien sûr, déjà, nous pouvons prier pour nos frères et sœurs. Et je crois aussi qu'ils prient pour nous, Seigneur, chrétiens en Occident. Seigneur, je te demande de vraiment conduire toutes ces œuvres qui travaillent à leur... à soulager les chrétiens qui souffrent, comme Porte Ouverte et d'autres aussi. Seigneur, que tu conduises les actions, que tu les coordonnes pour un travail efficace. Seigneur, pour que tu redonnes espoir à ceux qui n'en ont plus, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ont faim, ceux qui ont perdu la foi, que tu ranimes, que tu ravives, Seigneur, la petite étincelle qui peut leur rester, Seigneur. Que tu leur redonnes espoir, que tu leur manifestes que tu es présent, Seigneur. Et qu'ils reprennent espoir. Et que le monde voit, Seigneur, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Tous les efforts pour la détruire, eh bien, Seigneur, ils sont vains, parce que c'est toi qui l'as bâti. Alors que ce soit ton amour, Seigneur, qui nous guide dans toutes nos décisions et nos œuvres. En Jésus-Christ. Amen.